La revue de presse avec vous, Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Bonjour. C'est la Mona Lisa du tennis. Tout le monde la voit derrière sa vitrine, mais personne n'entend jamais le son de sa voix. La phrase est signée d'un journaliste suisse qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Mais alors de qui parle-t-il? Qui est-elle, cette Mona Lisa du tennis? Eh bien, il s'agit de Miroslava Vavrinec. Patricia, j'imagine que vous voyez son visage.
Non, pas vraiment.
Son surnom, c'est Mirka. Née le 1er avril 1978 dans une ville de l'ex-Tchécoslovaquie. Eric, vous la connaissez?
Je crois avoir une petite idée, mais allez-y.
Voilà, il faut dire qu'on la présente souvent sous son nom d'épouse. Miroslava Vavrinec, c'est
Madame Federer.
Roger Federer, qui ce dimanche fait son grand retour à Roland-Garros après 4 années d'absence. Retour inespéré, commente ce matin l'équipe, qu'il qualifie de rockstar et d'artiste phénoménal. Le quotidien sportif vante, je cite, sa faculté à écourter l'échange et agresser ses adversaires, faculté qui devrait lui dégager un horizon vers la deuxième semaine dont son grand âge ne saurait le priver. Son grand âge, 37 ans. La vieillesse, c'est toujours une question de point de vue. La dernière fois qu'il était venu concourir au tournoi parisien, il avait été battu en quart de finale. Federer, c'est un peu comme un vieil ami perdu de vue, mais jamais oublié, lit-on dans le JDD. Et pour l'occasion, c'est le Parisien dimanche qui nous parle de sa femme. 2 pages donc sur Miroslava Vavrinec, qu'on nous présente comme l'élément clé de la fabuleuse carrière de son tennisman de mari, 4 ans de plus que lui. Elle-même a été joueuse et c'est au JO de Sydney qu'ils se sont rencontrés. C'était en 2000, 15 jours au milieu des athlètes de la délégation suisse. Avant de quitter l'Australie, Roger, 19 ans, s'est lancé. Il l'a embrassée. Elle lui a dit « Tu es si jeune, tu es un bébé ». La jeunesse, c'est vraiment une question de point de vue. Et ce que nous raconte l'article, c'est donc l'influence positive de cette épouse discrète et silencieuse. Elle joue pour lui le rôle d'agent, de confidente, d'attachée de presse. Elle gère les déplacements et les finances, l'éducation des 4 enfants. Mirka,
c'est
50% de la réussite de Roger, assure l'ancien joueur helvète Marc Rosset. Et d'ailleurs, Federer le reconnaît lui-même. Sans elle, rien de tout ce que j'ai réalisé n'aurait été possible. Si elle n'était pas toujours avec moi, j'aurais déjà mis un terme à ma carrière.
Comme quoi, Frédéric, il y a toujours une femme derrière un grand homme. Peut-être qu'un jour, vous me ferez dire qu'il y a toujours un homme derrière chaque grande femme.
Une femme derrière un grand homme. C'est ce qu'on se dit également à la lecture d'un très bel entretien dans le journal du dimanche. Dans sa belle maison de Neuilly, Marie-Laure Delorme est allée rencontrer Françoise d'Ormesson, qui raconte les 55 ans passés aux côtés de son épatant mari. L'académicien est mort le 5 décembre 2017 dans ses bras et depuis, peut-on lire, Françoise d'Ormesson a bien du mal à trouver le sommeil, la nuit et le bonheur, le jour. Jean, confie-t-elle, était la joie de vivre et la bonne humeur même. Tout n'a pas été un chemin de rose durant notre mariage. Tous les deux ont eu de nombreuses liaisons extra-conjugales, mais il avait décidé que rien n'était tragique. Combien de fois l'ai-je entendu dire « tout cela est ridicule, aucune importance, changeons de sujet ». À chaque repas, il avait quelque chose d'amusant à me raconter. La vie avec lui était un rire continu. Mais sans lui, la vie a donc cessé d'être légère. Et malgré la présence de sa fille et de sa petite fille, Françoise d'Ormesson assure qu'elle serait aujourd'hui enchantée de disparaître. Lisez cet entretien, le récit d'une tendre et puissante histoire d'amour, petite flamme de poésie, oui, en cette journée de bataille électorale.
Et oui, parce que ce sont les élections européennes qui font évidemment la une de tous les journaux ce matin.
L'Europe joue son avenir, titre ainsi l'Ardennaise européenne, le jour du choix, confirme la voix du Nord, tandis que la Provence et l'Est éclair s'interrogent. Quel visage pour l'Europe qui sera le champion d'Europe en France? 34 listes sont en lice pour ce scrutin dont l'issue de la vie générale s'annonce très incertaine. Le Parisien dimanche, comme le JDD, détaille les enjeux de l'élection pour chacun des partis. Et l'injonction portée par la presse est très claire. Aux urnes, citoyens, lance à sa une la dépêche, ce qui donne à la une de Midi Libre, voter. Tous les journaux reviennent également sur l'enquête menée suite au colis piégé qui a explosé avant-hier dans le centre de Lyon. Le suspect est toujours en fuite, la police le traque. Partout on retrouve l'expression chasse à l'homme. Il est par ailleurs question d'une autre affaire. L'ouverture demain du procès du meurtrier présumé de Sophie Toscan du Plantier. Assassinée il y a plus de 22 ans en Irlande, ce sera aux Assises de Paris. Procès exceptionnel, souligne le Parisien, notamment car le box des accusés sera vide. Yann Bailey, l'homme que tout accuse, y compris lui-même quand il est ivre, n'a jamais été inculpé outre-Manche. Et l'Irlande a pour l'heure toujours refusé de l'extrader.
Du côté de la presse régionale, différents sujets d'inquiétude.
À la une de l'Indépendant, le SOS de la Cité des Oiseaux. Les habitants de ce quartier gangréné par la drogue exigent une action de l'État. À la une du journal de Saône-et-Loire, les vols de chiens du côté de Chalon. Le quotidien évoque un inquiétant business. À la une de Paris-Normandie, sujet éducation, des profs au rabais. Face à la pénurie d'enseignants dans les collèges et les lycées, les contractuels sont de plus en plus nombreux à se retrouver face à une classe du jour au lendemain. Or, ils sont à la fois formés et payés au rabais, souligne le journal. Payé au rabais, c'est également ce que sont les assistants d'artistes. Formidable enquête à lire dans la revue Mouvement. Rencontre avec quelques-unes de ces petites mains au service des grands noms de l'art contemporain. Une profession aux contours flous où l'espoir de reconnaissance future se mêle souvent à la frustration et la précarité. Témoignage de l'un de ces assistants d'artistes. Quand une œuvre est vendue 80 000 euros et que je suis payé 800 euros par mois pour l'avoir conçue de bout en bout, je me dis que ce n'est pas très normal. On se le dit aussi. Enfin, et j'en termine, avec une autre enquête également formidable. Cette fois, c'est à lire dans l'Obs. Enquête sur le succès des recueils de correspondances. De vrais cartons en librairie. 80 000 exemplaires pour les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot. Et 55 000 pour les lettres échangées entre Albert Camus et Maria Cazares. Les correspondances d'écrivains plaisent aussi énormément, mais l'hebdo s'interroge, lettres et bientôt le néant, où l'on découvre que les auteurs contemporains n'écrivent quasiment plus de lettres. Ils échangent plutôt des mails et des textos, ils n'échappent donc pas à l'époque. Mais bien sûr, tout cela n'empêche pas d'écrire des mails et des textos d'amour.
Lettres et le néant, je prends évidemment. Merci Frédéric Pommier, cette revue de presse du dimanche.